Chapitre 29. Résignation. La désolée, comme la belle Suzanne de Valgeneuse appelait son amie, la désolée laissait derrière elle un cœur au moins aussi désolé que le sien. Ce cœur, c'était celui de Justin. Nous nous trompons, il fallait dire des cœurs. Ces cœurs, c'étaient ceux de Justin, de sa mère, du bon professeur, de sœur Céleste et du curé de la Bouille, qui ignorait le mal qu'il allait faire et qui se croyait dans la simplicité de son âme un messager de joie quand, au contraire, il était le messager des douleurs. Mais celle de tous qui avait le plus souffert, car elle avait souffert pour elle et pour son fils, c'était la mère. Elle, si forte au commencement, elle avait été abattue avant la fin. Avant les adieux, sans dire un mot, sans pousser un cri, sans verser une larme, elle s'était insensiblement évanouie. Aucun de ces égoïstes malheureux ne s'était aperçu de son évanouissement. Celui qui s'en aperçut, parce qu'il lui semblait qu'une partie de son cœur agonisait, ce fut Justin. « ma mère !» s'écria-t-il, « mais voyez donc ma mère !» On se précipita vers l'aveugle, aux genoux de laquelle Justin était tombé et qui l'enveloppait de ses bras. Son visage était devenu couleur de cire, ses mains étaient froides comme le marbre, ses lèvres violettes. C'était le dernier né des espérances de sa vieillesse qui venait de mourir. Ce qu'il y avait de terrible dans tout cela, c'est qu'il n'y avait pas moyen de rejeter la faute sur personne, de récriminer contre qui que ce fût. Tout le monde avait eu bonne intention, même le pauvre curé de la Bouille. C'était la fatalité, voilà tout. On courut chez le pharmacien, qui donna des sels. À force de sel et de vinaigre, Madame Corby revint à elle. La première chose, non pas qu'elle vit, pauvre aveugle, mais qu'elle sentit, ce fut son fils qui la consolait, lui qui avait tant besoin d'être consolé. Mais il ne s'apercevait pas de sa douleur, le bon Justin, lorsque quelqu'un souffrait près de lui, et que ce quelqu'un surtout, c'était sa mère. Il resta donc près de Madame Corby, non seulement jusqu'à ce qu'elle fût revenue à elle, mais encore jusqu'à ce qu'elle fût couchée. Alors, comprenant le besoin que son fils avait de pleurer lui-même, et sentant qu'il n'osait pleurer devant elle de peur de la pousser au désespoir, elle exigea qu'il se retirât chez lui. Justin redescendit dans sa petite chambre. Tout ce qu'il emporta du premier étage fut le chaperon de fleurs d'oranger qu'en le quittant, Mina avait arraché de sa tête et lui avait jeté. Le bon professeur descendit avec Justin. Quant au curé de la Bouille, il n'avait plus rien à faire à Paris. Il reprit, à 6 heures du soir, la voiture de Rouen, remportant cet argent maudit qui venait de causer un si grand malheur. Pendant qu'il s'éloignait de la grande Babylone où va bientôt se dérouler Notre-Dame, Justin et son professeur étaient redescendus dans la chambre des écoliers, auxquels on avait donné à l'occasion de la grande solennité qui devait avoir lieu, et en même temps à cause du lundi gras qui, par extraordinaire cette année-là, tombait au commencement de février. Le visage sombre de son élève inspirait au bon Müller une profonde terreur. Il se mit, dans l'espérance de le distraire, à rappeler à Justin toutes ses vieilles histoires de collège jusqu'au moment où il en était arrivé à la rencontre de la petite fille. Là, il voulut s'arrêter, mais ce fut Justin qui, à son tour, raconta bien minutieusement, jour par jour, la vie adorable qu'il avait menée depuis 6 ans. « Nous avons été trop heureux, lui dit-il. De nombreux pressentiments m'ont averti qu'il fallait me préparer à payer cher, un jour ou l'autre, cette victoire que j'avais remportée sur mon mauvais destin. J'ai joui pendant 6 ans d'une félicité ineffable. C'est presque le 6e de la vie. Peu d'hommes peuvent en dire autant. J'ai oublié la joie de ces 6 ans. J'oublierai le malheur comme j'ai oublié la joie. Joie et douleur se fondront un jour dans la teinte grise du passé. Ne soyez donc pas inquiet de moi, mon cher maître. Ne me croyez pas capable de quelque sombre résolution. Est-ce que je m'appartiens, d'ailleurs? Est-ce que je ne me dois pas à ma bonne mère, à ma pauvre sœur? Non, non, cher maître. Mon parti est bien arrêté. J'ai lutté contre la misère. Je lutterai contre la douleur. Laissez pendant quelques jours ma blessure se cicatriser. Permettez surtout que je demeure seul. Il y a dans la solitude, pour les cœurs résignés, une religion inconnue. La résignation, cher maître, c'est la force des faibles, et vous me verrez rentrer plus fort et plus éprouvé dans le combat de la vie. » Le vieux maître sortit, étonné, presque effrayé, de la puissance de résignation de cet homme, mais rassuré complètement sur les suites de son désespoir. Justin, après avoir reconduit M. Müller jusqu'à la porte de la rue, rentra dans sa chambre et se promena lentement et longuement, les bras croisés, la tête basse, jetant de temps en temps les yeux au plafond, comme s'il eût voulu demander au ciel le mot de cette énigme qu'on appelle fatalité. Deux ou trois fois, il alla jusqu'à la porte de l'armoire où le violoncelle dormait dans sa boîte, mais il ne l'ouvrit même pas. Ce soir-là, il était encore trop faible. Jusqu'à 3 heures du matin, il se promena ainsi. Il n'avait pas pu pleurer depuis le matin. Sa douleur se pétrifiait, pour ainsi dire, dans son sein et l'étouffait. Il se jeta sur son lit, la fatigue l'emporta, il s'endormit. La veille, il avait eu la même insomnie et le même sommeil. Seulement, c'était la joie qui avait tenu ses yeux ouverts, c'était la fatigue du bonheur qui les avait clos. Heureusement, le lendemain était le mardi gras, un jour de congé. Il était donc libre de ciseler avec sa douleur, de la prendre à bras-le-corps, de lutter avec elle, de tenter de la terrasser. La lutte dura toute la journée. Après avoir embrassé sa mère et sa sœur, il sortit au point du jour. Il alla visiter de nouveau l'endroit où, par une belle nuit de juin, il avait trouvé l'enfant couché dans les blés et dans les fleurs. Il n'avait plus ni bleuets, ni coquelicots, ni blonds épis. La terre était, comme son cœur, nue, dépouillée, gercée par l'hiver. Il alla se promener dans le bois de Meudon, si gai, si riant, si plein de soleil et de verdure, quand il s'y promenait avec son maître. Il poussa jusqu'aux portes de Versailles. Il eut la force de ne pas aller jusqu'au pensionnat. À quoi bon revoir la pauvre enfant ? N'était-il pas sûr qu'elle pleurait loin de sa vue? N'était-il pas sûr qu'à sa vue, elle pleurerait bien davantage? D'espoir, il ne lui en restait aucun. Il était clair pour lui que Mina appartenait à quelque famille riche et aristocratique. Et quelle chance y avait-il pour qu'on lui la donnât à lui, humble et pauvre? Il pouvait la voir, sans doute, mais c'est justement ce qu'il n'avait pas voulu faire. Il rentra chez lui à 10 heures du soir. Il avait fait 15 lieues dans la journée et ne ressentait pas la moindre fatigue. Sa mère et sa sœur l'attendaient, inquiètes toutes deux. Il rentra, le visage souriant, les embrassa et descendit dans sa chambre. La même chose se passa qui s'était passée la veille. Il se promena encore lentement et tristement. Il compta les heures jusqu'à minuit. Et puis enfin, après s'être, comme la veille, arrêté 2 ou 3 fois devant l'armoire où était son violoncelle, il se décida à ouvrir la porte, tira l'instrument de sa boîte et le regarda avec une mélancolie profonde. La petite fille, on se le rappelle, par un caprice d'enfant, l'avait fait renoncer à jouer de ce sombre instrument. Nous l'avons vu le toucher plusieurs fois, le tirer de sa boîte, le serrer entre ses genoux, s'enivrer de la mélodie absente, mais ne pas en tirer une seule note. Aujourd'hui, il revenait à lui. « J'ai été ingrat, dit-il, ô mon vieil ami, ô mon tendre consolateur, je t'ai abandonné pendant mes jours de joie, je te retrouve pendant mes jours d'infortune. » Et il embrassa le violoncelle avec effusion. « Ô source inépuisable de consolation, reprit-il, musique, refuge des âmes éplorées, j'ai fait comme l'enfant prodigue, je t'ai quitté un jour, chère famille de mon âme, j'ai été criblé de douleur, et je reviens à toi, les pieds meurtris, l'âme brisée, et tu me tends les bras, harmonieuse déesse, et tu me reçois, le cœur plein de miséricorde et d'amour. » Et comme il avait fait de l'instrument, il tira de l'armoire son vieux livre de musique, le posa sur son pupitre, l'ouvrit, s'installa sur le haut tabouret, prit le violoncelle et posa l'archet sur les cordes. Au moment de jouer, 2 larmes tombèrent de ses yeux. Il posa l'archet sur son bras gauche, prit son mouchoir, essuya lentement ses paupières humides et commença de jouer le même chant grave et mélancolique que Salvatore et Jean-Robert avaient entendu 2 heures avant le commencement de ce récit. On sait comment Salvatore avait frappé à la porte, comment les deux amis avaient été introduits par Justin, comment il lui avait demandé la cause de ses larmes, comment enfin le maître d'école avait consenti à leur raconter son histoire. Cette histoire, c'est celle que nous venons de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Cette histoire, les deux jeunes gens l'avaient écoutée avec des impressions bien différentes. Le poète avait été vivement ému à certains endroits. La scène de la mère condamnant son fils au malheur, plutôt que de lui laisser commettre une action douteuse, lui avait fait venir les larmes aux yeux. Le philosophe l'avait entendu d'un bout à l'autre avec une insensibilité apparente. Seulement, au nom de mademoiselle Suzanne et de monsieur Laurédan de Valgeneuse, il avait tressailli. On eût dit que ce n'était pas la première fois qu'il entendait prononcer ces noms, et chacun d'eux paraissait lui avoir fait au moral la même impression que fait au physique le contact d'un corps dur avec une blessure mal fermée. « Monsieur, dit Jean Robert, nous serions indignes d'avoir entendu ce que vous venez de nous raconter si nous essayions de donner à un homme comme vous de banales consolations. Voici nos adresses. Si jamais vous avez besoin de deux amis, nous vous demandons la préférence. » Et en même temps, Jean Robert déchira une page de son portefeuille et écrivit les deux noms et les deux adresses et les donna à Justin. Celui-ci les prit et les mit entre les pages de son livre de musique. Là, il était sûr de les retrouver tous les jours. Puis il tendit ses deux mains aux deux jeunes gens. Au moment où ses quatre mains se pressaient, on frappa violemment à la porte. Qui pouvait frapper à cette heure? Justin était tellement dégagé de tout autre intérêt que celui dont il se préoccupait qu'il ne pensa pas même que ce coup frappé si vigoureusement pût l'être à son attention. Il laissa les jeunes gens sortir et, sortant, ouvrir la porte aux visiteurs nocturnes ou plutôt matinal, car les premiers rayons du jour commençaient à paraître. Celui qui frappait à cette porte était un enfant de 13 à 14 ans, aux cheveux blonds frisés tout autour de la tête, aux joues roses, aux vêtements légèrement déguenillés. Un véritable gamin de Paris en blouse bleue, en casquette sans visière avec des souliers éculés. Il leva la tête pour voir qui venait lui ouvrir la porte. « Tiens, c'est vous, monsieur Salvatore, » dit-il. « Que viens-tu faire ici à cette heure, monsieur Babolin ?» demanda le commissionnaire en prenant amicalement le gamin par le collet de sa blouse. « Ah, j'apporte à monsieur Justin, le maître d'école, une lettre que la brocante a trouvée cette nuit en faisant sa tournée. » « À propos de maître d'école, » dit Salvatore, « tu sais que tu m'as promis de savoir lire le 15 mars. » « Eh bien, nous ne sommes encore qu'au 7 février, il n'y a pas de temps perdu. »« Tu sais que si tu ne lis pas couramment le 15, je te reprends le 16 les livres que je t'ai donnés. »« Même ceux où il y a des images, oh, monsieur Salvatore, tous sans exception. »« Eh bien, tenez, vous voyez qu'on sait lire, » dit l'enfant. Et jetant les yeux sur l'adresse de la lettre, il lut « À monsieur Justin, Faubourg Saint-Jacques, numéro 20, » un louis de récompense à celui qui remettra cette lettre, Mina. L'adresse et la postille étaient écrites au crayon. « Ah, porte vite, mon enfant !» dit Salvatore en poussant Babolin du côté de l'appartement du maître d'école. Babolin traversa la cour en deux enjambées et entra en criant « Monsieur Justin, une lettre de mademoiselle Mina !»« Que faisons-nous ? » demanda Jean-Robert. « Restons, » répondit Salvatore, « il est probable que cette lettre annonce un nouvel événement dans lequel notre assistance pourra être utile à ce brave jeune homme. » Salvatore n'avait point achevé que Justin apparaissait sur le seuil de la porte, pâle comme un spectre. « Ah, vous êtes encore là !» s'écria-t-il, « Dieu soit loué, lisez, lisez !» Et il tendit la lettre aux deux jeunes gens. Salvatore la prit et lut. « On m'enlève de force, on m'entraîne, je ne sais pas où. À mon secours, Justin, sauvez-moi mon frère, ou venge-moi mon époux, Mina. »« Ah, mes amis !» s'écria Justin, tendant les bras aux deux jeunes gens. « C'est la Providence qui vous a conduit ici. » « Eh bien, » fit Salvatore à Jean-Robert, « vous demandiez du roman, j'espère qu'en voilà, mon cher. »